Radio Okapi.
La grande édition du journal parlé, c'est tout de suite avec Jocelyne Moussao.
Au total, 28 corps sans vie repêchés et 120 rescapés enregistrés jusque-là. C'est le bilan revu du naufrage d'une baleinière en début de semaine sur la rivière Lukeni dans le Maïndombé. L'embarcation transportait plus de 300 passagers à son bord. Près de 2 millions de cas de paludisme notifiés en 2023 au Nord-Kivu, dont 951 décès et plus de 800 000 cas déjà enregistrés cette année, dont 210 décès. Le PNLP, qui annonce la distribution de plus d'un million de moustiquaires, plaide pour plus de mobilisation afin de renforcer la riposte. La journée mondiale du moustique, vecteur du paludisme, c'était le 20 août dernier. Et nous recevons à cet effet le directeur du PNLP, Programme National de Lutte contre le Paludisme, docteur Eric Moukomena. Il nous parlera de la situation de cette maladie dans le pays et des réponses à apporter pour plus d'efficacité. Bonjour à tous. Naufrage d'une embarcation en bois sur la rivière Lukeni au Maïndombé. Au total, 28 corps sans vie repêchés et enterrés jusque dans la soirée d'hier mercredi. Entre-temps, le commissaire fluvial et le commandant de la police fluviale du village Tolo sont mis en détention par l'équipe déployée par le gouvernement provincial pour des enquêtes. L'administrateur du territoire de Koutou, Jacques Nzenza, qui le dit, affirme que jusque-là, au moins 120 rescapés ont été enregistrés. Toujours selon lui, les bilans pourraient être revus à la hausse car les recherches se poursuivent. On l'écoute, il est joint au téléphone d'Irène Beaumain.
La recherche des corps nous a produit 28 corps retrouvés et enterrés. Par rapport aux rescapés, on en a enregistré 128. La recherche s'est faite sur place où on est en train de détruire la baleinière pour retrouver les corps dedans. Mais entre-temps, en aval, parfois on reçoit deux corps qui flottent. Alors les villageois et les pêcheurs les ramassent, font signe à l'équipe qui est au lieu du drame, ils viennent récupérer ces corps pour enterrer parfois. Ils donnent l'ordre que les enterrent toujours en aval, là on les a retrouvés. Il y a les commissaire fluvial de Tolo, les commandants de la police fluviale de Tolo qui sont aux arrêts, l'équipe de la province qui a mené aussi des investigations, peut-être qu'ils ont trouvé qu'il faut les saisir pour en savoir plus et peaufiner les enquêtes. Ça tire l'attention des opérateurs, des armateurs qui ne coûtent jamais avec ce problème de navigation nocturne, avec la surcharge de leurs embarcations. Voilà les conséquences.
Rappelons que la baleinière naufragée transportait à son bord plus de 300 passagers en provenance de la cité d'Oshoué à destination de Nioki. La dite embarcation s'est complètement reversée après avoir cogné un gros tronc d'arbre. La navigation nocturne et la surcharge sont les causes principales de ce drame, rapportent les autorités locales. Et puis cette réaction de Monseigneur Donatien Bafouedine Sony, évêque du diocèse catholique d'Inongo, en tournée dans la région du drame, il fait remarquer à travers un communiqué que les bandes de sable deviennent des obstacles pour la navigation, surtout que cette rivière qui n'est pas balisée. Il note aussi que les embarcations naviguent sans repère avec tous les risques possibles. Il demande aux hommes d'affaires ou entrepreneurs épris de philanthropie et de compassion de doter la province des embarcations fiables et dignes de ce nom. Le résumé de son message avec Blaise Makassi.
L'évêque du diocèse d'Inongo dénonce le fait que les embarcations naviguent la nuit du fait de l'entêtement des matelots, des réclamations des passagers eux-mêmes, avec la complicité des autorités fluviales, souvent corrompues et peu soucieuses de la vie des passagers. Selon Mgr Bafouedine Sony, le jour, cet accident serait évité parce que le tronc d'arbre à la base du naufrage était bien visible. Exprimant son désarroi et sa tristesse face à un naufrage de plus dans la province de Maïndombé, il fait remarquer que les appels lancés par les acteurs de la société civile ne sont pas entendus par des autorités dont les yeux ne voient plus des conditions précaires dans lesquelles voyagent leurs compatriotes. En plus, les dirigeants sont, selon lui, incapables de proposer des solutions efficaces ou de prendre des décisions suivies des faits, comme l'interdiction des voyages nocturnes, la surcharge et l'établissement des manifestes fantaisistes. Il espère que les nouvelles autorités de la province seront plus attentives aux conditions des voyages, au type et à la qualité des embarcations susceptibles de parcourir des rivières et lacs d'Inongo.
Direction Litouri où une centaine de maisons sont envahies par les eaux du lac Albert à Ubongwa dans le territoire de Mahagi. C'est à la suite de fortes vagues causées par des vents violents qui soufflent sur le lac ces derniers jours. Conséquence, les déplacements de plus d'un millier de personnes sans abri et d'importants dégâts matériels. Le président de l'Assemblée provinciale de Litouri lance un appel au gouvernement et aux humanitaires pour une intervention urgente en faveur des sinistrés. Martial Kizabiamungu.
Cette catastrophe naturelle s'est produite hier mercredi 21 août au village lacustre d'Ubongwa pendant que la population en majorité de pêcheurs vaquait normalement à ses activités. Après un vent violent, les eaux du lac Albert ont débordé de son lit naturel et envahi plusieurs maisons d'habitation et des campements de pêcheurs. Plusieurs biens et matériels de pêche sont emportés par les eaux. La population a débandade cherché un endroit pour se protéger. Sami Djakonga, président de l'Assemblée provincial de Litouri qui revient de la zone parle d'une situation très inquiétante en cette période où les parents préparent la rentrée scolaire de leurs enfants. Ils plaident pour une intervention rapide du gouvernement et des humanitaires pour venir en aide à ces personnes sans abri. Dans son bulletin d'information ce jeudi, les services de la protection civile indiquent que ces équipes sont en pleine évaluation des dégâts matériels et humains de ces phénomènes devenus cycliques. Il encourage la population à quitter cette zone pour prévenir de nouveaux dégâts car la montée des eaux du lac continue. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les pluies torrentielles ont laissé un sillage de destruction dans le territoire de Beni. Deux personnes ont perdu la vie, quatre ponts ont été emportés et une centaine de maisons sont en ruine. Ce bilan provisoire concerne les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la localité de Nobili et ses environs entre samedi et hier mercredi. Située à environ 80 km au nord-est de Beni, cette zone est en détresse. La société civile locale tire la sonnette d'alarme et appelle à une aide immédiate pour les sinistrés. Elle évoque aussi un exode des habitants des zones touchées vers d'autres entités de la chefferie de Watalinga. Marc Marofimbo nous rapporte les détails.
Depuis samedi, des pluies diluviennes frappent la chefferie de Watalinga sans relâche. Les rivières Gogo, Kamaraza et Lutakila, qui relient les quatre groupements de la chefferie, ont débordé, provoquant un chaos indescriptible, 110 maisons détruites, deux ponts effondrés dans les groupements de Bahumu et deux motards tragiquement noyés, leurs motos emportées par les flots. Les moulins d'huile de palme, essentiels pour la population locale, n'ont pas été épargnés. La circulation est paralysée, isolant les communautés de l'est, du nord et de l'ouest de la chefferie de Watalinga. Le président de la société civile locale, Mabele Moussaïdi, lance un appel désespéré pour une aide d'urgence aux sinistrés.
C'est un dégât qui est général dans toute la chevaure de Watalinga, vers moi, mais Kiting, parce que la route qui était réhabilitée par l'ONG WHH aussi, et a perdu aussi quelques sables qui étaient placés là-bas à cause de l'inondation. C'est pourquoi nous continuons à lancer un appel à tous les partenaires de la République, et à commencer par notre gouvernement, et les ONG qui travaillent dans les catastrophes, de venir en tout cas secourir la population de Watalinga, les villages qui kingent les groupements de Manyangale qui ont perdu presque toutes les maisons.
Depuis une semaine, la région de Beni Butembo et Lubero est touchée par de fortes pluies. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Au chapitre santé, à propos de l'épidémie des monkeypox, notez que 11 cas ont été confirmés dans la ville de Kinshasa au cours de la semaine du 12 au 18 août 2024. Les malades sont actuellement sous traitement et internés à l'hôpital général de référence, ex-hôpital Mamayemo, selon le docteur Chris Kachita, chef de section des opérations du programme national de lutte contre le Mpox, cité par l'agence congolaise de presse ACP. Depuis les débuts de l'année, Kinshasa a enregistré 103 cas suspects et 23 cas confirmés de Mpox testés positifs au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale. Selon ce médecin, la zone de santé de Limété est l'épicentre de l'épidémie des monkeypox à Kinshasa. Au Nord Kivu, je le disais dans les titres, plus d'un million de moustiquaires imprégnés d'insecticides sont déjà disponibles pour une campagne de distribution prévue incessamment en province. L'annonce est faite par le Programme national de lutte contre le paludisme. C'était lors d'un échange de plaidoyer hier mercredi à Goma avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Au moins 5 zones de santé les plus touchées par les effets de la guerre sont particulièrement ciblées. Bernard Danyangi.
avec plus d'1,8 million de cas de paludisme notifiés en 2023, dont 951 décès et plus de 800 000 cas déjà enregistrés au premier semestre de cette année, dont 210 décès, le paludisme reste une des principales préoccupations de la santé au Nord-Kivu. Le directeur national du programme de lutte contre le paludisme, qui fait ses révélations, plaide pour plus de mobilisation. Ceci afin de renforcer la campagne de distribution prévue comme l'un des moyens de riposte. Pour lui, avec les moyens déjà disponibles, seules 5 zones impactées par le mouvement des populations sont provisoirement ciblées. Eric Mukomena.
On va distribuer en se basant sur les zones qui ont été impactées lourdement par les déplacés internes parce qu'il y a une carence internationale sur la levée de fonds. On n'a pas pu lever suffisamment de fonds. Au lieu d'à peu près 8 millions de moustiquaires, nous avons levé 1 255 000 moustiquaires. Vous comprenez que dans ce contexte, il fallait prioriser.
La campagne de distribution devrait être lancée officiellement début 2025, notamment dans les territoires de Walikale, Lubero, Giragongo et la ville de Goma, où sévit une forte prévalence du paludisme. Des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes déplacées de guerre, pour la plupart, sont parmi les victimes. Goma, Bernard Dengangi, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, l'UNICEF a doté mardi dernier la zone de santé de Moba d'un important lot de médicaments et des matériels médicaux pour la prise en charge de femmes qui accouchent et des nouveau-nés. Le médecin-chef de zone annonce que depuis le début de cette année, la zone de santé a enregistré un nombre important de décès maternels. Le point avec Paul Amunanga.
Au total, 12 aires de santé et l'hôpital général de référence de Kirungu ont bénéficié de ces dons de l'UNICEF. Il s'agit notamment des couveuses, des lits d'hospitalisation et lits d'accouchement, des pinces et des médicaments. Le médecin-chef des zones de santé de Moba espère que ces dons vont aider à réduire les décès dans sa zone de santé. Il souligne que la zone de santé figure parmi celles qui enregistrent un taux élevé de décès maternels suite au manque de médicaments et de matériels médicaux. Dr Barune Moma rappelle que depuis le début de cette année, la zone de santé a déjà enregistré 10 décès maternels. Il estime que cela constitue un problème de santé. Le coordonnateur de la société civile de Moba salue cette initiative de l'UNICEF. Léon Taboupessa lance un appel au personnel médical de bien garder ses matériels et de ne pas les subtiliser. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
L'Assemblée provinciale du Maniema a déclaré hier mercredi recevable la proposition de 10 portant mobilisation des ressources financières en appui au secteur de la santé dans cette province. Cette première proposition des 10 est l'œuvre du député provincial élu du territoire de Kailo, Dr Kibungi Mutanga, félicite ses pairs d'avoir accepté cette proposition qui vise l'amélioration dans les secteurs de la santé. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Nous avons proposé aux élites du peuple que sur la totalité des montants de la redevance minière du gouvernement provincial, qu'on puisse tirer 2,5% de ces montants-là et mettre ça à côté pour le secteur de la santé. Et en dehors de ce mécanisme, nous savons qu'il y a d'autres formes de financement. Dans le budget provincial qui sera voté pour l'année 2025, qu'on puisse aligner une ligne spéciale pour appuyer les services de vaccination en province. Et rien n'empêche, s'il y a d'autres dons et l'EG, ça sera toujours bienvenu pour appuyer notre caisse qu'on veut créer pour le système de santé. Il y a 20% qu'on donne à la province après nous avoir mobilisé au niveau des SAIMAP ou autres services. Maintenant, dans les 20% là, on prend 2,5, on met à côté pour le secteur santé. Le gouvernement central nous appuie habituellement avec les partenaires, mais l'apport là n'est pas suffisant.
Bouclons ce chapitre par cette communication. La direction de la morgue centrale de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, va procéder à l'enterrement de tous les corps abandonnés dans les différentes morgues de la ville province de Kinshasa. Cette annonce a été lancée dans un communiqué officiel hier mercredi à l'hôtel de ville. L'opération va débuter dans les jours à venir et aura lieu au cimetière Fula Fula dans la commune de Maluku. De ce fait, la direction de la dite morgue invite la population kinoise à ne pas céder à la panique et rassure que l'opération va se dérouler dans le strict respect de la dignité des morts. Suivez le directeur de la morgue centrale dans cet extrait choisi par Miradim Fouengi.
La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps de personnes indigentes, abandonnées et mort-nées provenant de toutes les morgues de la ville province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fula-Fula dans la commune de Mal. Sixe, elle prie à la population de ne pas paniquer car elle veillera à la dignité et au respect dit aux morts.
Actualité internationale. Au Cameroun, l'influenceur Ramon Kota est détenu à Yaoundé. Il est en détention à la gendarmerie, a indiqué hier mercredi son avocat. Connu sur les réseaux sociaux pour ses critiques des autorités camerounaises, il était apparu en état d'arrestation dans une vidéo largement relayée en ligne. L'absence de signes de vie de l'influenceur après son interpellation mi-juillet avait inquiété avocats et ONG internationales sur une possible disparition forcée. Dans un communiqué, le collectif d'avocats qui représente Ramon Kota a assuré mardi avoir échangé pendant 2 heures avec son client dans la cellule de sûreté du tribunal militaire de Yaoundé.
L'invité.
La journée mondiale du moustique a été commémorée le mardi 20 août dernier, une journée choisie pour se souvenir de la découverte en 1897 par le médecin britannique Ronald Ross du moustique comme vecteur des maladies dont la malaria et aussi pour attirer l'attention sur la lutte contre les maladies en question. En RDC, le paludisme est chaque année responsable de plusieurs cas d'hospitalisation et de décès, surtout chez les enfants. Comment se présente la situation de cette maladie dans le pays ? Qu'est-ce qui est fait pour y faire face et qu'apporter de plus pour une lutte plus efficace? Docteur Eric Mukomena, directeur du PNLP, Programme National de Lutte contre les Paludismes, répond dans cet entretien avec Babel Pongo Massimango.
Docteur Mukomena, bonjour.
Bonjour madame.
Quelle est aujourd'hui la situation du paludisme en République démocratique du Congo?
La situation globalement de lutte contre le paludisme, elle est stable, ne s'est pas empirée cette année en 2023, non plus en 2024, le semestre. Ça veut dire que d'après l'EDS, qu'on vient de terminer 2023-2024, la population possède la moustiquaire, mais l'utilisation demeure encore moyenne. Par rapport à la prise en charge, la prise en charge s'est améliorée. Les intrants sont disponibles dans les hôpitaux, les centres de santé sous financement du gouvernement et de ses partenaires. Ça, je peux vous l'avouer. Mais la mortalité qui semblait augmenter commence à diminuer en 2024. Mais les chiffres demeurent encore inquiétants parce que nous avons terminé l'année 2023 avec 24 000 décès sur le pays. Ça veut dire 2 000 décès liés au paludisme sur l'ensemble du pays par mois. Et donc, si vous divisez par les 519 zones de santé, c'est au moins 4 décès par zone de santé et par mois. Ça demeure encore très élevé. On devait travailler pour qu'ensemble nous puissions diminuer les décès liés souvent à l'arrivée tardive dans les centres de santé ou les hôpitaux.
Concernant la lutte, au fait, vous nous avez parlé de moustiquaire, mais parmi les moyens de lutte, il y a aussi l'environnement qui compte. C'est la journée mondiale du moustique. Quel message vous pouvez transmettre à la population à cette occasion par rapport à la prévention de la malaria?
Du point de vue médical, l'outil de prévention que nous avons actuellement qui puisse être accessible, c'est la moustiquaire imprégnée. 4 enfants peuvent passer une nuit dans une moustiquaire. Ça coûte 6 $. Et si la moustiquaire a 3 ans comme durée de vie, ça veut dire que 2 $ par an. Mais au-delà de ça, les moustiquaires sont distribués massivement. Mais c'est l'utilisation qui traîne encore le pas. Si vous avez 90% des possessions de moustiquaires et que 50% seulement l'utilisent, il y a un problème. C'est là que nous devons, nous du corps médical, nous des médias, dans les écoles, dans les églises, pour que cette moustiquaire que l'État congolais a mobilisée puisse être utilisée. Et revenons maintenant à la journée des moustiques, parce que nous avons la nofelle qui transmet la malaria. Il y a aussi les autres moustiques. Il y a deux moyens pour lutter contre cela. L'assainissement. Vous êtes d'accord avec moi que l'assainissement fait partie d'autres domaines que la santé, même si nous communiquons avec les ménages pendant la consultation prénatale. On vous avait dit qu'il faut assainir la maison et dans les péris. Mais d'autres domaines de l'État devraient se joindre dans cette lutte qui est multisectorielle. C'est comme dans les choléras. La santé a sa part et d'autres domaines de l'État ont leur part. Et donc, il faut qu'on conjugue dans un cadre multisectoriel pour adresser les paludismes. Parce que la malaria, vous avez les vecteurs, c'est les moustiques. le parasite, c'est les germes que le moustique transmet. Vous avez l'hôte, c'est la personne, et vous avez l'environnement. On a quatre composantes dans ce type. Au-delà de ça, dans l'actuel plan stratégique, nous avons préconisé que, à petite échelle, que nous puissions commencer même dans les camps des militaires et des policiers par la pulvérisation intradomiciliaire, qui est une stratégie coûteuse, certes, que les bailleurs n'achètent pas, mais si l'État, comme nous l'avons proposé, nous allons approcher la police, les forces armées de la République, pour que nous puissions vendre notre plan stratégique, qu'on commence petit à petit, même dans les grands camps de la capitale, nous aurons des résultats avec l'argent de l'État, nous allons retourner vers la partenaire pour leur dire, voici, nous avons des résultats, ne pouvez pas vous joindre aux efforts de l'État congolais pour qu'ensemble, dans les grandes villes, on puisse implémenter, au-delà de la moustiquaire imprégnée, la pulvérisation intradomiciliaire.
Et au-delà de tout ce moyen de lutte, il y a également le vaccin anti-paludéa que la RDC a reçu. Pourquoi c'est important de prendre un vaccin et à qui c'est destiné?
Le vaccin est destiné aux enfants de moins de 5 ans, aux enfants jusqu'à l'âge de 18 mois. On commence à 6 mois. Il y a 4 doses. C'est important pour protéger les plus petits. Au-delà de 6 mois, parce que jusqu'à 5 mois, l'enfant est protégé par les anticorps de sa mère. Au-delà de 6 mois, les anticorps disparaissent. On va lui injecter ce vaccin pour que cet enfant puisse lui conférer une immunité solide qui va le protéger tout le long de sa vie. Parce que, d'après les études, les enfants complètement vaccinés sont protégés jusqu'à 70 fois plus que les enfants qui ne sont pas protégés.
Le vaccin, c'est seulement...
Nous allons commencer par la porte d'entrée. Les raisons sont logistiques, mais ça tombe bien. Le Congo central fait partie des provinces à charge très élevée du paludisme en RDC. Nous allons commencer d'ici fin septembre. Si on est en retard, ce sera en octobre qu'on va introduire ce vaccin avec nos collègues du PEV.
Docteur Eric Mukomena, merci.
Je vous remercie, madame.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Il a été coordonné par Élisée Chikota et mis en onde par Jean-Noël Le Mokondo. Merci de l'avoir suivi et de le réécouter sur notre site radio-okapi.net.